Bonjour à tous. On va commencer sans attendre, de manière à pouvoir traiter tout ce qu'on a à dire aujourd'hui. Et on attend encore Alain Damasio, que vous attendez aussi sans doute, mais qui s'est fait un peu alpaguer à la sortie de la conférence précédente par une horde d'autographeurs. Donc il va arriver. En attendant, je vais vous présenter les deux autres invités de cette table ronde. Alors là-bas, Bastien Kerspern, qui est designer d'interaction et qui fait partie d'une société qui s'appelle Casus Ludi et qui édite notamment des news games. Et plus près de moi, Brice Roy, qui est un artiste numérique, également game designer, donc concepteur de jeux vidéo, et qui a travaillé comme directeur créatif sur le jeu Californium, qui est présenté dans l'espace jeux vidéo, un jeu qui a été édité par Arte et Nova Productions et créé par le studio, développé par le studio Darjeeling. Alors, pour commencer, et en attendant Alain, qui doit déjà connaître par exemple ce que fait Brice, je vais demander à Brice de nous exposer un peu de manière, concise, mais voilà, ce que ton rapport avec le jeu vidéo. Ah oui, ton rapport...
Vous entendez là ?
Ouais. Donc oui, explique-nous un peu comment... Enfin, ton activité dans le domaine du jeu vidéo, c'est-à-dire qu'est-ce que tu fais ? Tu as de nombreuses activités entre la philosophie, l'enseignement et la création numérique. Donc raconte-nous un peu ton rapport avec ce médium qu'est le jeu.
Oui, c'est vrai que j'ai plusieurs activités dans le jeu vidéo. Donc là, sur les Utopiales, je suis là en tant que directeur créatif du jeu Californium, donc présenté Urba. Mais c'est vrai qu'au niveau du game design, de manière plus générale, j'ai d'autres activités. Et notamment, je suis le cofondateur d'un collectif qui fait du jeu expérimental et artistique qui s'appelle One Life Remains, où on fait du jeu vidéo qui prend des formes d'installation. Donc par exemple, du jeu de baston avec des manettes qui font 3 mètres de long. Voilà, des choses un peu particulières. Et puis je suis aussi en train de finir une thèse de philosophie sur le jeu vidéo à l'université de technologie de Compiègne.
Très bien. Et donc Bastien, peut-être est-ce que tu peux nous parler aussi de comment à la sortie d'études de design, donc à l'école de design de Nantes, tu t'es tourné vers entre autres le jeu comme support de communication, de messages et de design.
Je pense que comme pas mal de gens qui sont venus au game design, je suis autodidacte à la base. C'est-à-dire que j'ai pas eu de formation pour faire du game design ou autre. Et je suis arrivé au game design en fait par les sciences politiques, plus que par le design interactif en tant que tel. Parce qu'en fait, je me suis intéressé aux jeux via ce qu'on appelle les news games, qui sont des jeux sur l'actualité. Donc ce qui m'a plutôt intéressé au début, c'était de traiter de sujets un peu controversés par le jeu plutôt que de faire des expériences qui soient un peu divertissantes.
Merci. Et donc, on vient de finir les présentations de nos deux camarades. Alain Damasio, pas la peine de le représenter une énième fois sur ce salon. Peut-être juste, vu que le sujet de la conférence est un peu différent des autres, peut-être que tu peux nous rappeler ton rapport passé et actuel au médium jeux vidéo.
Moi je dirais que j'étais un gamer jusqu'à, on va dire, 25 ans à peu près. Après, c'est vrai que j'ai pas mal décroché et après je suis devenu un fabricant de jeux. Voilà, je suis passé de l'autre côté de la barrière, donc c'est très intéressant, très très fascinant d'être vraiment dans la fabrication, dans l'atelier. Et donc je m'y suis collé à partir de 2008. Voilà, j'ai passé 3 ans donc dans le studio Dontnod qu'on a cofondé avec 4 autres personnes, et j'ai assuré la direction narrative du studio sur le jeu Remember Me, en passant ensuite le relais à Stéphane Beauverger, que peut-être vous connaissez, qui est un excellent scénariste. Et on avait monté ça au tout début, avec Brice d'ailleurs, hein, au tout début. Brice a participé au début de l'aventure, c'est pas assez su, c'est pas assez dit, mais il était au tout départ de l'aventure d'Antnol, et des premiers gameplays d'ailleurs qui avaient été faits sur Remember Me, quoi. Voilà, donc ma position, elle est un peu, j'ai une position de franc-tireur, je suis un peu à l'extérieur, tout en étant passionné par le médium. J'aime bien le critiquer, j'aime bien m'y immerger, j'aime bien en ressortir. J'ai un côté un peu, un peu en porte-à-faux sur le jeu vidéo. Donc voilà, quoi. C'est un peu mon approche aujourd'hui.
Très bien. Donc on peut commencer. Donc l'idée de cette conférence était de voir comment le jeu vidéo peut être un vecteur de message. Alors la question va être qu'est-ce qu'exactement le jeu et quels messages qui peuvent être divers et variés. Je voudrais juste commencer par introduire ça, mais après mes invités peuvent me contredire s'ils ne sont pas d'accord, en parlant du fait que le jeu vidéo, qui a maintenant une quarantaine d'années d'histoire derrière lui, d'histoire commerciale en tout cas derrière lui, est rentré dans la culture d'un grand nombre d'entre vous, et que les générations qui arrivent, donc tous les gens qui ont, moins de 45 ans en général, connaissent au moins ce support-là. Une grande partie en sont très imprégnés, et que du coup, on va vers quelque chose où les actifs, les décideurs, les hommes politiques, la population, une grande partie de la population va être sensibilisée aux jeux vidéo. Et donc, pour moi, qui également essaye d'en faire parfois un support de message, je considère que c'est qu'on commence à être au bon moment pour faire ça, puisque de simples divertissements, activités de divertissement, le jeu est devenu pour moi une sorte de média, en tout cas, à part entière, un outil où les gens ont suffisamment d'accroche culturelle, d'habitude de ce média-là pour pouvoir l'appréhender sous une autre forme que juste sous la forme du divertissement. Alors déjà, est-ce que vous avez envie de réagir sur ce constat
Moi, je crois, oui, que tu as complètement raison. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène de maturité du média qui est en cours. Faut savoir que ça reste très, très jeune. Hein. Je veux dire, c'est vrai que les premiers jeux, 75, 70. Donc, on est sur un média extrêmement, extrêmement récent. Donc, qui partait avec un handicap majeur, pour moi, d'un point de vue intellectuel et spéculatif. C'est qu'il faut savoir qu'un jeu, c'est fait pour jouer, quoi. Voilà. Putain, je suis content d'avoir dit ça. C'est vachement intéressant. Donc, ça veut dire qu'on est sur des bases de divertissement. Ça n'a pas été le cas, par exemple, sur la littérature. Ça n'a pas été le cas non plus sur le cinéma, même si les premiers films avaient un petit côté quand même fête foraine et un côté on impressionne les gens par des effets neufs. Le jeu a été fondé sur cette racine-là, le divertir les gens. Et dans divertir, il y a quoi ? Il y a sortir de la voie, quoi. C'est-à-dire on sort les gens d'une voie réflexive, d'une voie d'interrogation, d'une voie d'enjeu à traiter, et on leur amène de l'amusement, du jeu, du fun, etc. Bon, donc ça, c'est une sorte de handicap. Malgré tout, et surtout dans le jeu indépendant, c'est très clair aujourd'hui, on voit apparaître de plus en plus, et c'est pas tout récent, hein, on voit apparaître des jeux extrêmement intéressants, intelligents, portant des messages, portant des gameplays qui sont non seulement novateurs et originaux, mais surtout qui apportent, soit en dimension cognitive, soit en dimension philosophique des choses. Et on arrive à ce qui s'est passé pour le cinéma, c'est-à-dire qu'on a un mainstream comme ça, avec beaucoup de blockbusters, parfaitement inintéressant, et puis on a un champ, je dirais, de jeux d'arrêt d'essai, où là, il y a quelque chose à voir, à jouer, à expérimenter, à éprouver. Il y a des univers dans lesquels s'immerger qui sont extrêmement riches, quoi. Donc on est effectivement, je ne sais pas si c'est la phase de maturité absolue, je pense que c'est un phénomène au long cours, c'est un phénomène très puissant, mais on le voit quand même émerger de façon assez forte. Après, il y a le problème du financement de ces jeux-là et de leur accession au grand public, mais c'est en cours, ouais.
Alors, moi, j'ai envie de te contredire tout de suite. Je suis pas du tout d'accord. Alors, c'est étonnant parce que, a priori, je suis la première personne je devrais être d'accord avec ce que tu dis, puisque justement, je suis pile ce type de créateur de jeu qui, a priori, essaye d'utiliser le jeu vidéo justement pour proposer des expériences qui ont du sens. J'aime pas trop le mot message parce que tout de suite, ça laisse entendre qu'il y aurait un discours, enfin bon, bref. Alors, je suis pas d'accord avec toi. Déjà, ce qui me gêne, c'est je sais pas de quoi on est en train de parler. Est-ce qu'on est en train de parler du jeu ou est-ce qu'on est en train de parler du jeu vidéo ? C'est-à-dire, si le jeu c'est du divertissement, déjà là, il y a un point moi, qui me fait problème, c'est que les activités ludiques, bien évidemment, elles n'ont pas attendu l'existence de systèmes, de structures commerciales pour exister. Et on peut se demander si, quand ce n'était pas le cas, la pratique du jeu entendu comme forme de divertissement, donc en effet pour regarder ailleurs, hein, ou pour dévier, c'était nécessairement la forme prédominante. Ça, c'est un premier point où pour moi ça fait problème de dire ça. Et puis la deuxième chose, c'est que on peut très bien créer des proposer des expériences qui se présentent d'emblée comme des formes de divertissement, et en réalité le fait même de proposer des objets de divertissement qui vont vous faire regarder ailleurs et aller ailleurs, au sens où vous dites bon ben voilà, je vais en profiter pour me détendre, ce genre de choses, peut précisément être le lieu parfait pour faire passer des messages, pour faire réfléchir, pour créer des choses qui ont du sens. Parce que dévier de la voie, c'est pas simplement dévier de situations où on est en train de réfléchir, c'est aussi dévier de situations hyper normatives où on est par exemple enfermé dans des habitudes de travail, des habitudes de vie quotidienne, et du coup le divertissement peut venir casser ça et permettre de faire l'expérience d'autres visions du monde.
Donc déjà, c'est pas simple effectivement de se mettre d'accord juste sur ce dont on doit, enfin comment on doit traiter effectivement ce côté vecteur de message et de quel message effectivement concernant le jeu. Alors je veux bien qu'on commence par réfléchir à ce que le jeu en tant que pur divertissement, enfin, le jeu vidéo, je vais préciser, en tant que pur divertissement depuis son ascension commerciale, toujours dans un cadre assez clair.
Donc on n'est pas en train de parler du jeu vidéo, hein, on est en train de parler du jeu vidéo commercial.
Voilà, tout à fait. Voilà. Est-ce que déjà dans ce média-là, on a pour vous des messages qui sont implicitement transmis, soit culturellement, par le contexte culturel dans lequel ils sont produits, soit des choses comme ça. Bastien ?
Clairement, même si on regarde les jeux dits AAA, qui sont donc les jeux avec de très gros moyens, qui sont des très grosses industries, la plupart des messages ou des contextes narratifs des jeux en fait sont le reflet du contexte dans lequel idéologiquement sont empreintes ces industries. Si on regarde par exemple Call of Duty, pour prendre un exemple un peu caricatural d'une certaine manière, lorsqu'on regarde les scénarios de Call of Duty, les intrigues qui sont portées, la façon dont on a une hégémonie militaire, etc. et tout, c'est parce que ça fait écho aussi à la culture dans laquelle ont baigné les développeurs des jeux, une partie de la culture dans laquelle baignent les joueurs eux-mêmes. Donc effectivement, n'importe quelle industrie vidéoludique va être contrainte ou influencée par la culture qui l'a fait grandir. Donc je pense que si on avait un Call of Duty américain et qu'on peut imaginer un Call of Duty en Éthiopie, développé par des développeurs éthiopiens, ce ne sera pas du tout la même chose parce que ces deux cultures n'ont pas le même rapport à la guerre et ne vont pas le traiter de la même façon. Donc il suffit de prendre par exemple un jeu qui est intéressant. Alors je ne sais pas jusqu'à où la culture a joué là-dedans, mais je pense à comment ça s'appelle, Spec Ops The Line, donc qui est un jeu militaire qui peut paraître un shooter assez bas du front de premier abord, alors qu'en fait c'est un jeu où vous êtes amené un peu comme dans certains films comme Apocalypse Now en fait, à être dans une descente aux enfers en tant que militaire. Et c'est un jeu qui a été développé par des développeurs allemands. Et à un moment, on peut se demander si, vu toute l'histoire militariste et tout le poids, la culpabilité autour de l'armée qu'il y a eu avec l'Allemagne pour les événements qu'on connaît, n'a pas joué aussi dans le conditionnement qu'ont pu avoir les développeurs du traitement de ce qui aurait pu être simplement un jeu de tir basique. Donc à mon avis, oui, la culture joue sur les messages implicites qui sont envoyés parce que c'est empreint d'idéologie.
Spec Ops The Line, c'est un super exemple. C'est un brûlot anti-militariste, sauf que si vous le regardez, tout ce qui se passe au niveau image vous donne l'impression d'être dans un énième shooter. Et de fait, c'est un shooter. Mais derrière, vous avez plusieurs niveaux de lecture. Donc là, il y a aussi une autre question, Florent, derrière ton... Enfin, la question de la relation entre jeu vidéo et message, c'est aussi la question de par où passe le message. Et on a tendance à croire que le jeu vidéo, c'est un... On a un médium dont le vecteur principal est l'image. Et ça, pour ma part, c'est très problématique. À mon sens, le message, enfin, faire passer des messages dans du jeu vidéo, c'est justement le faire passer par des vecteurs qu'il n'y a pas dans le cinéma, qu'il n'y a pas dans la littérature, à savoir d'abord dans le geste et dans l'activité, et pas dans l'image.
L'interaction, donc. Pour Spec Ops, pour ceux qui ne connaissent pas, il me semble aussi qu'il a été marketé comme un jeu de guerre, comme un énième jeu de guerre. C'est-à-dire qu'au-delà du fait qu'on peut avoir l'impression de, il a été aussi marketé comme tel, puisque c'est comme ça que les gens du marketing pensent qu'on vend un jeu. Une réaction là, sur le jeu classique, on va dire, et sur sa transmission de message. Est-ce que, par exemple, c'est le même genre de... Enfin, cette empreinte culturelle des gens qui produisent, est-ce que, finalement, c'est la même chose que dans le cinéma ou dans la littérature ?
Je sais pas, c'est difficile à dire là-dessus. Moi le sentiment que j'ai eu, en tout cas, quand j'ai travaillé avec Dontnod, avec une équipe de 80 personnes, c'est que là, il y a une base culturelle commune qui est extrêmement puissante et extrêmement insue, quoi. C'est-à-dire qu'elle est, elle est pas forcément consciente, elle n'est pas forcément verbalisée. C'est plus un état de fait dans lequel on baigne. Et moi, venant d'ailleurs, venant vraiment de la littérature, je me sentais toujours en porte-à-faux avec ça parce que c'était une culture qui était essentiellement fondée sur le, faut le dire quand même, sur les blockbusters américains, sur des séries télé. Et sur l'univers justement vidéoludique dans lequel il baigne, parce que non seulement il crée les jeux, mais il joue peut-être à 25 ou 30 heures par semaine. Donc c'est un champ, voilà, c'est un champ en tout cas, et qui a une influence colossale sur la création. Pour vous donner un exemple, moi on avait bâti un personnage, le personnage principal de Zio qui s'appelait Nilin, où moi j'avais tenté quelque chose qui était de dire on va créer une identification à ce personnage, mais une identification ce qu'on appelle par familiarité, par faille, quoi. C'est-à-dire que on va créer un personnage qui a de la vulnérabilité, qui est fragile, qui est en quelque sorte handicapé psychologiquement, et sur lequel on va rentrer par cet attachement-là. Or, vous savez que le jeu vidéo, quasiment à 90%, est fondé sur l'identification par admiration. Hein, ça, c'est les classifications d'Aristote, hein, tout ça. C'est très ancien. C'est-à-dire que vous aimez les personnages parce que vous aimeriez avoir les capacités, les pouvoirs, les compétences du personnage. Et au final... la valence, le tropisme intérieur des équipes est tellement fort là-dessus qu'on est arrivé à une héroïne qui, effectivement, on s'y attache, mais parce qu'elle est capable de réaliser des choses que nous ne sommes pas capables de réaliser, la fragilité était quasiment entièrement conjurée, et on a un personnage relativement classique, relativement évident, et très, très habituel dans le jeu vidéo. Donc ça, c'est un phénomène culturel. Donc c'est une sorte d'évidence intérieure qui n'a pas été véritablement questionnée. Après, moi, je rebondis sur ce que dit Brice, et moi, je suis complètement d'accord avec lui, par contre. J'adore être d'accord avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi. Non, il y a quelque chose qui est extrêmement important, et je pense que c'est le cœur de ce sujet aujourd'hui, c'est de dire, est-ce que dans un jeu vidéo, le message est porté par la narration, ou est-ce que dans un jeu vidéo, le message est porté par le gameplay ? La réponse, elle est évidente, elle est portée par les mécaniques de jeu. Voilà. Le médium, c'est le message, et le message, c'est votre gameplay. C'est le gameplay que vous avez mis en place. Et du coup, c'est extrêmement compliqué de savoir ce qu'un jeu vidéo véhicule réellement vers le joueur, parce que l'expérience que procure le gameplay, elle est très difficile à verbaliser, elle est très difficile, pour moi en tout cas, à situer, à circonscrire. Et moi, si je prends ce que j'ai fait sur Remember Me, je pense que je me suis complètement planté, par exemple. Je pense que j'ai rien compris au médium. Enfin, j'ai compris après, donc 4 ou 5 ans après, et encore, je pense, mal. Mais j'étais venu avec mes habitudes de romancier. J'ai créé une bible narrative de 1000 pages à 4. On l'a réduit à 200 pages, il y en a peut-être 2% dans le jeu. On a essayé par quelques cinématiques, mais par beaucoup de narration aussi, ce qu'on appelle environnemental, c'est-à-dire des tags sur les murs, des publicités, des voix qui s'adressent aux joueurs, etc. On a essayé de créer comme ça, parce qu'on n'a pas beaucoup de vecteurs de messages dans un jeu. Il faut savoir, c'est le texte, en gros c'est le son, hein, c'est les messages sonores, ou alors c'est le visuel. Et à travers ça, à travers ces vecteurs-là, je me suis dit, je vais faire passer le message, et notamment c'est un message politique, etc., de révolte, à travers ces vecteurs-là. La vérité, c'est que ça ne marche pas. La vérité, c'est que c'est comme si vous mettiez une couche comme ça de messages, de philosophie politique, par-dessus quelque chose qui n'est pas fondé du tout sur la politique, sur un gameplay qui n'est pas politique, qui n'est pas fondamentalement politique. Et donc, vous avez un message hétérogène avec l'expérience. Voilà. Et le gameplay qu'on avait, à part le Memory Remix, qui était un gameplay vraiment intéressant, je pense, et qui pouvait véhiculer des dimensions politiques, à part ce gameplay-là, vous passiez 50% du temps à vous battre, et 20% à faire du traversal, et peut-être 20% à faire les puzzle games. Donc, de toute façon, l'expérience que vous avez véhiculée, le message que vous avez envoyé aux joueurs, c'est battez-vous, déplacez-vous, fuyez, et essayez de résoudre des problèmes. Voilà, c'est ça le message. Et c'était absolument pas le message que moi, je voulais véhiculer. Donc, voilà, c'est un ratage à ce niveau-là. Voilà.
Je peux rajouter quelque chose ?
Vas-y, vas-y.
Par rapport à ça, il y a... comment dire ? Si vous prenez les échecs et le go, apparemment, ce sont des jeux qui sont dépourvus de messages ou de discours, au sens où ce sont des jeux purement abstraits. Un élément qui est intéressant, et donc pour rebondir hein, sur ce que dit Alain par rapport à l'importance de cette question de la relation entre les mécaniques de jeu et le message, si vous regardez la manière dont le jeu d'échecs fonctionne, dans ses principes, vous voyez qu'il est, construit sur un principe d'occupation du terrain qui est complètement différent de celui du Go, avec une structure hiérarchique au niveau des pièces. Et ça, si vous allez voir du côté de Deleuze, que Calin connaît très bien aussi, vous voyez que par rapport au Go, on est sur des logiques qui sont complètement différentes, qui racontent complètement autre chose sur c'est quoi les confrontations, c'est quoi les rapports de force. On pense pas du tout, on se comporte pas du tout de la même manière, on réfléchit pas du tout de la même manière quand on joue aux échecs et quand on joue au Go. Et donc quand vous êtes en tant que game designer, quand vous créez un jeu, eh bien les possibilités, les actions que vous donnez au joueur, la manière dont il va justement pouvoir résoudre les problèmes, bah ça va raconter complètement autre chose. C'est très très différent de contourner l'adversaire, de l'entourer, de créer des enclos, donc d'être dans des logiques de bulles, d'enclos, que d'être dans des logiques de prise et de tenir des zones en verrouillant au maximum l'espace. C'est pas du tout la même manière de réfléchir. Je suis pas en train de dire que les échecs c'est pas bien. Hein. Je suis pas en train de dire ça, mais ça ne raconte, ça n'implique pas la même manière de réfléchir.
Alors c'est intéressant, et c'est intéressant aussi, je rebondis sur ce que disait Alain, sur le fait que les messages que vous avez essayé de faire passer dans le jeu, finalement ne sont pas passés parce que le gameplay prenait toute la place en termes de messages. Depuis quelques années, des gens s'emparent du médium jeu vidéo pour essayer de transmettre des messages, notamment politiques. Je pense au collectif italien La Mole Industria. Et c'est rigolo parce que ça me fait penser à leur jeu sur McDonald's. Donc ils ont fait un jeu qui s'appelle McDonald's The Games. Donc il y a quelques années, depuis, McDonald's a fait des efforts pour être un peu moins critiquable sur les points qui étaient attaqués dans le jeu. Et effectivement, le jeu était très acerbe, très 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 critique de toute la chaîne de valeur de McDonald's, hein, de la gestion des forêts et des élevages jusqu'à la distribution et à la corruption des médias pour dire que c'était bien, etc. Et dans les commentaires du jeu, il s'est trouvé que des gens appréciaient le jeu. Alors c'est un jeu de gestion, au final c'est un jeu de gestion, et donc ce jeu était extrêmement critique. Quand on le regarde, on ne peut pas imaginer ne serait-ce qu'une seconde que McDonald's l'ait laissé en place, d'ailleurs, alors qu'il est toujours jouable, hein, je vous conseille d'essayer. Et malgré tout, il y avait des joueurs qui disaient chouette, un jeu McDonald's, et chouette, il est bien ce jeu. C'est-à-dire qu'il arrivait, malgré l'évidence de tout le contenu, à rater le côté critique de McDonald's. Alors pour en dire plus sur ce sujet.
C'est la question du contresens. Hein. Il y a plein d'œuvres hein, où on fait des contresens. Est-ce qu'il y a d'ailleurs un bon sens ? Est-ce qu'il y a une bonne manière d'interpréter hein ?
Tout à fait. Mais après, les gens, je pense qu'une majorité des gens interprétaient quand même correctement. Mais
ça suppose qu'il y aurait la bonne manière d'interpréter.
Ben, en l'occurrence, il y a pas de bonne. C'est pas une question de bonne manière. Enfin, j'étais plus sur le côté ce que voulait dire la personne qui a transmis. Là, pour le coup, il y avait une volonté de transmettre.
Ah oui, mais alors là,
tu n'es
plus en train de parler de l'œuvre, tu es en train de parler de l'intention de l'auteur.
Tout à fait.
Ben, ça n'a rien à voir.
Désolé. Alors, peut-être qu'en...
Je te donne un autre exemple, c'est le Monopoly. Les créateurs du Monopoly, peut-être vous connaissez sans doute cet exemple, les créateurs du Monopoly voulaient faire un jeu de dénonciation du système capitaliste, du principe de l'achat, du concept de propriété, etc. Franchement, est-ce que quand vous jouez au Monopoly, vous avez l'impression de jouer à une satire, une critique du capitalisme ? Je ne suis pas sûr.
Ben c'est exactement la même chose, effectivement.
Donc, l'intention de l'auteur et la nature de l'œuvre, ce que dit l'œuvre, voilà, ça ne se recoupe pas forcément.
Tout à fait.
Et autrement, un auteur, il peut échouer à vouloir dire ce qu'il veut dire.
On est donc bien d'accord. Et donc, juste pour que... Je ne sais pas si tout le monde est très au fait, justement, de cette utilisation qui est faite depuis quelques années des jeux. Je veux bien que, Bastien, tu nous expliques un peu plus... Ce courant qui va pour utiliser le jeu comme vecteur de message, notamment politique et critique sur la société, puisque c'est ton domaine d'activité.
C'est le moment où je joue au professeur chiant, c'est ça ?
Non, t'as le droit de le faire de manière fun.
Et didactique. Oui, alors il y a un courant de jeu, on appelle ça les jeux persuasifs, donc des jeux en fait qui essayent de persuader, de faire changer votre comportement ou de faire changer la façon dont vous pensez. Donc ça, c'est un truc qui a été... théorisé il y a un peu moins d'une dizaine d'années, et il y a un des pans de ces jeux persuasifs qui s'appelle les news games, donc qui sont des jeux qui traitent de sujets d'actualité et qui sont là aussi bien pour vous informer que pour dénoncer certaines choses, bah, comme le cas de McDonald's que tu montrais bien. Et la base de ces jeux-là, c'est d'avoir ce qu'on appelle une rhétorique procédurale. Donc derrière ce nom barbare, en fait, se cache l'idée que votre gameplay, c'est le message. Comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que les règles, selon la façon dont on gagne et la façon dont on perd, correspondent à plus ou moins une métaphore de la réalité, aussi, on va dire, subjective qu'elle soit par rapport aux intérêts de l'auteur et de ce qu'il a voulu faire passer du coup comme message. Mais pour prendre un exemple, il y a un jeu qui s'appelle 12 septembre, donc qui se passe après le 11 septembre, qui est un petit jeu que vous pouvez trouver sur Internet, et donc qui date de 2003, je crois, de mémoire, de Gonzalo Frasca, donc qui est un game designer critique argentin. Et c'est un jeu assez simple, en fait, où vous êtes au-dessus d'un village taliban. On peut imaginer que vous êtes dans un drone et vous allez devoir bombarder des talibans. Donc, le premier choix, vous avez le choix de les bombarder ou de pas les bombarder. C'est-à-dire que vous pouvez aussi ne rien faire. Les petits personnages vont continuer de vivre leur vie. Vous n'aurez rien fait et ce ne sera rien passé. Si vous décidez de les bombarder, forcément, vous allez faire des dommages collatéraux. Donc, forcément, vous allez tuer des civils. Et ces civils, en fait, vont se transformer dans le jeu. On le voit, ils se transforment en talibans. Et en fait, cette mécanique tout simple de je tue un taliban et il y en a trois qui apparaissent, c'est parce que c'est ce qui s'est passé dans la, j'allais dire, dans la vraie vie lors de la guerre contre la terreur menée par les alliés en Afghanistan et après en Irak. C'est-à-dire que les dommages collatéraux ont fait augmenter la haine qu'il y avait contre les Occidentaux. Et ce qui fait que bah, tout ce qui était les groupes terroristes avait beaucoup plus de facilité à recruter derrière. Donc cette mécanique super simple de je clique, ça crée trois ennemis au lieu d'en dégommer un, et ben ça permet de faire passer un message politique. Et donc on a tout un pan de jeu, tu parlais effectivement de la Molina Industria qui a des jeux très critiques et très éditoriaux contre souvent tout ce qui est capitaliste, tout ce qui est libéral. Mais il y a aussi d'autres news games, d'autres jeux qui font passer des messages qui sont plus de l'ordre du journalisme. Je pense notamment aux productions de Florent Morin en France, de The Pixel Hunt, qui, eux, sont plutôt des jeux documentaires et qui vont vous faire essayer de prendre conscience d'une réalité sans pour autant vous influencer ou vous faire prendre parti pour telle ou telle chose.
Voilà, donc c'était pas chiant, en fait. Enfin, je pense pas. Du coup, ça m'amène à la question, Brice ou Alain, sur l'utilisation... Alors, peut-être Brice, sur la partie... est-ce que cette volonté de transmettre un message, donc l'intention de l'auteur, est réservée à réussir dans des jeux ou des productions qui sont finalement de petite taille, ce qu'on appelle la scène indépendante, ou est-ce qu'on peut imaginer que ce choix de transmettre un message puisse aussi exister dans des grosses productions ?
Non mais ouais, on en a bien fait l'expérience, Alain, plus violemment encore que moi, mais... C'est vrai que quand tu travailles avec 80 personnes, bah, tu te retrouves face à une force d'inertie et une pluralité d'opinions qui pousse à basculer dans tout simplement soit le consensus, soit l'opinion dominante.
Non, et puis oui, il y a des jeux, même dans les blockbusters, c'est évident qu'ils transmettent quelque chose qui est de l'ordre. Tu prends Call of Duty encore une fois. Je veux dire, c'est une perception de l'hégémonie américaine militaire. Enfin, c'est évident, le message numéro un, c'est quand même ça, quoi. Tu vois, tu peux dire ce que tu veux, mais ce que ça transmet immédiatement, c'est ça, quoi. Tu vois. Donc ça, il y a non seulement les cultures internes des équipes, ça c'est vrai, mais il y a aussi ce que ça véhicule extérieurement, quoi. Et un blockbuster peut véhiculer les choses. Moi, je suis d'accord avec ce que disait Brice au début sur le terme message. Je pense qu'il faut vraiment, on aurait dû appeler ça jeu vidéo, voilà, vecteur de sens, quoi. Mais sens peut-être au sens justement. Les cinq sens et même des sens un peu plus vastes que les cinq sens, et aussi la signification, quoi. C'est-à-dire que c'est très rare que le message lui-même soit véritablement, à mon sens, véritablement opérant ou véritablement intéressant. Encore une fois, le narratif pur, le discursif pur, c'est-à-dire produire du texte, produire même du texte qui est verbalisé, même du texte qui est en cinématique, hein, je veux dire, c'est-à-dire produire des discours par-dessus la couche de gameplay ou autour de la couche de gameplay, moi, ça me paraît hétérogène. Voilà, en tout cas, c'est vraiment le sentiment que j'ai. Et c'est pour ça que les romanciers sont rarement des bons scénaristes. Ce qui compte vraiment, je reviens à ça, c'est la colonne vertébrale de l'expérience de jeu, quoi. C'est-à-dire de vraiment, quand vous activez une mécanique de jeu, qu'est-ce que vous éprouvez, quoi. Voilà. Qu'est-ce que ça vous fait éprouver. Quand on parle du jeu du McDo, moi, même si le jeu est très satirique, je ne le connais pas, hein, même si le jeu est très satirique, etc., à partir du moment où le plaisir du joueur et l'expérience du joueur va être de gérer et que tout son... effectivement, son plaisir de jouer à ce jeu va être lié à la gestion... Pour moi, vous avez de toute façon une forme de sens qui est à l'opposé de ce que vous voulez critiquer, puisque McDonald's, c'est une gestion optimale d'un certain type de junk food, quoi. Voilà. Donc, si vous le jouez même avec tout un ensemble, une couche de messages critiques, ironiques, etc., il n'empêche que l'expérience de jeu, elle porte là-dessus, quoi, tu vois. Et tu prends l'exemple du Monopoly, c'est un excellent exemple aussi. Pourquoi? Le Monopoly, moi, je joue au Monopoly, mon plaisir, c'est d'écraser les autres en, en achetant toutes les baraques et en finissant avec le tas de billets, quoi. Et qu'est-ce que c'est que cette pulsion? Qu'est-ce que c'est que ce plaisir de jeu? Sinon, le capitalisme même, le plaisir de l'accumulation, quoi, tu vois. Donc, le sens du Monopoly, même si au départ, il était créé à l'inverse de ça, c'est d'accumuler. Donc, c'est le plaisir.
C'était leur idée, hein. C'était leur idée, c'était justement de mettre les joueurs face à ces situations. Et donc dans l'idée de déclencher des prises de conscience. Sauf que par nature, la posture ludique, c'est une posture d'engagement. Enfin, tu peux avoir des manières d'amener le joueur à avoir une prise de recul, mais d'emblée, jouer, c'est quand même être engagé, faire des choses. Et donc, tu es en train d'accumuler des billets, tu n'es pas en train de regarder l'absurdité de cette montagne de billets. Enfin, c'est plus dur d'amener ça. Est-ce que je peux embrayer sur un...
Vas-y.
Sur un sujet qui est connexe, enfin qui est directement lié à ça. Tu demandais tout à l'heure si c'était plus facile ou non de créer des jeux dans des structures de plus petite taille. Alors, sans répondre directement à cette question, il y a un point. Tout à l'heure, quand on se demandait est-ce que jusqu'à quel point, enfin où est le message? Est-ce que c'est dans l'image? Est-ce que c'est dans le gameplay? Ben en fait, moi j'ai aussi envie de dire que le message, il est aussi lié à la forme même que peut prendre un jeu vidéo et notamment à ses supports. C'est-à-dire que à partir du moment où vous faites du jeu vidéo sur des supports normés, standardisés, ça implique que vous ne remettez pas en question le rôle que jouent ces supports, la forme qu'ont ces supports, et ça implique de considérer que ces supports sont neutres, que ce sont juste des outils comme ça, et que le fait de jouer avec une manette, le fait de jouer avec un clavier et une souris sur un ordinateur, dans sa chambre ou sur son téléphone, c'est neutre. Sauf que si vous regardez la manière dont, dans l'histoire du jeu vidéo, comment le jeu vidéo s'est diffusé, il est parti des universités et des malls, c'est-à-dire de type d'espaces qui étaient des espaces publics ou semi-publics. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces activités de jeu, elles étaient considérées comme pouvant être visibles, diffusées, partagées dans des espaces de partage, de croisement, de rencontre. La dynamique du jeu vidéo, la dynamique contemporaine du jeu vidéo, c'est en apparence d'aller vers une diffusion de plus en plus importante du jeu vidéo, sauf que pendant longtemps, ça se traduisait par quoi? Par le jeu vidéo est massivement pratiqué dans les salons, voire dans les chambres, le jeu vidéo disparaît des bars, disparaît des cafés, les salles d'arcade disparaissent, etc. etc. Alors, donc, le point, pour moi, là vraiment, en tant que créateur de jeu, c'est aussi au sein, pour le coup, de mon collectif One Life Remains, nous, on travaille aussi sur cette idée que faire un jeu, c'est aussi questionner le rapport au support. Et quand tu fais un jeu qui se joue sur des manettes qui font 3 mètres de long, sur un écran qui fait 9 mètres sur 11, tu peux pas le diffuser commercialement de la même manière. Tu peux pas y jouer dans ton salon, et quand tu y joues, tu y joues dans des espaces où du coup c'est visible, où il y a du partage, où les joueurs, ça circule, on se fait passer la manette, etc. Ça raconte pas la même chose. Donc voilà, il y a vraiment aussi cette question du support, où pendant très longtemps, et là ça change beaucoup dans le milieu indépendant là-dessus, on ne cherchait pas à réfléchir sur le contrôleur, alors que le contrôleur, c'est quand même le lieu d'usage du pouvoir. C'est là d'où le joueur il peut avoir un impact sur le système. Et donc, en fonction de la forme que ça prend, ça ne raconte pas et ça n'offre pas les mêmes possibilités d'expérience.
Non, ça c'est parfaitement exact. C'est McLuhan. Hein. C'est vrai que le message, c'est vraiment le médium. Moi, j'ai l'expérience, effectivement, je me souviens, à l'époque où il y avait encore des salles d'arcade, à Paris, je jouais à côté des Halles. C'était une salle qui était à l'angle de la rue Rambuteau, pour ceux qui connaissent, et puis du Père Tranquille. J'y allais souvent, à l'époque, je devais jouer à des jeux de combat, puis au tennis, je pense. Et je me souviens de cette sensation qui était toujours légèrement interlope. Il y avait des gens bizarres. T'attendais pour jouer, tu regardais, des fois tu commentais. T'avais un rapport social, t'étais dans un cadre social. Rien à voir avec jouer dans un salon. Et ça véhiculait complètement autre chose. Et ça, effectivement, la disparition des salles d'arcade, par exemple, a diminué les lieux de convivialité du jeu, quoi, qui après sont devenus des lieux entre amis, sur le canapé, ensemble, etc. Mais il n'y avait pas cette confrontation à l'univers autre que tu peux avoir encore dans les bars aujourd'hui, avec des gens que tu ne savais pas d'où ils venaient, moitié des clochards, moitié des gens qui étaient des complets fanatiques, etc. Et ça modifie, ouais, effectivement, beaucoup de choses.
Ça vient à Pong, hein, le créateur de Pong, disait que ce jeu, il fallait qu'il soit joué par des ivrognes. Alors, c'était très cynique, hein, mais c'est Pong a été créé dans cette idée qu'un des publics cibles, ça pouvait être quelqu'un qui avait juste trop bu.
Et du coup, effectivement, on voit que c'est compliqué de considérer le message en fonction des gens qui produisent, des gens qui vont recevoir et de l'intermédiaire qui va être une technologie. Comment tu travailles, toi, Brice, sur la partie création artistique numérique avec de l'interaction, donc du jeu, mais qui n'est pas ce qu'on a l'habitude de voir. Est-ce que vous essayez de transmettre justement un sens ou un message à chaque fois? Ou est-ce que vous réfléchissez, et comment vous y réfléchissez du coup quand vous faites ça?
En fait, moi je me suis mis à créer des jeux vidéo après avoir rencontré différents types de créateurs, dont Alain. Typiquement, c'est marrant, mais enfin, c'est après avoir lu La Horde du Contrevent notamment, je me suis dit que voilà, de la même manière qu'on pouvait s'approprier le roman et faire passer des messages dans un genre, la science-fiction ou des choses voisines, on n'a pas forcément l'habitude de voir, on pouvait aussi le faire dans du jeu vidéo, mais voilà, pour moi ça impliquait de pas en passer d'emblée nécessairement par des vecteurs commerciaux qui t'empêchent en fait de questionner, c'est-à-dire de remettre en jeu certains éléments. Je ne sais pas si je réponds à ta question, mais il y a le jeu, à un moment donné, c'est quoi? On a une conception souvent très 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 restreinte de ce qu'est le ludique. Mais moi, de mon point de vue, je ne vais pas rentrer non plus dans des grands débats philosophiques sur ce qu'est le jeu. Mais pour moi, le jeu, d'abord, c'est quand même de la déstabilisation. C'est de la remise en jeu. Donc typiquement, quand vous jouez à Portal, hein, je ne sais pas si vous voyez Portal, le jeu où on peut créer des portails qui permettent de passer d'un point à l'autre de l'espace, vous remettez en jeu un principe qui normalement est arrêté, à savoir, deux points distants ne peuvent pas être au même endroit. Et ben ça, vous le cassez dans Portal, vous remettez en jeu cette préconception et ça élargit votre vision du monde. Ben, dans mon approche du jeu, j'ai cette volonté de partir vraiment de qu'est-ce que c'est que jouer avec des choses aussi avec lesquelles on n'a pas le droit de jouer ou dans des endroits où on n'a pas le droit de jouer. Ça aussi, c'est un élément qui m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a aussi un effet de clôture où on a un précaré au sein duquel on aurait le droit de jouer et il y a des choses avec lesquelles on n'a pas le droit de jouer. Par exemple, on ne joue pas avec la nourriture, on ne joue pas dans une bibliothèque. C'est des choses comme ça. Vous voyez que très vite, à partir du moment où on commence à imaginer les pratiques ludiques dans des endroits où ce n'est pas censé être permis, on se rend compte que le jeu, il a aussi un pouvoir subversif et déstabilisateur. Il n'y a pas forcément besoin d'importer discours qu'on trouverait en littérature ou dans le cinéma, etc. Le jeu, par nature, à mon sens, est une forme de déstabilisation. Et donc, c'est ça ce qui m'intéresse, c'est de travailler directement depuis ça.
Bastien, du coup, là, je trouve que ça se rapproche un peu de ce que tu peux essayer de faire en design fiction ou en design critique. Est-ce que tu peux nous dire comment tu vois le jeu, justement? Est-ce que c'est comme un outil, justement, comme le dit Brice, là, pour questionner, pour remettre en question les choses? Ou est-ce qu'il y a d'autres sens à lui donner ou d'autres façons de l'utiliser?
Le jeu, justement, vu qu'il peut construire sur des métaphores de ce qui se passe vraiment, on voyait ça avec 12 septembre, il permet de révéler en fait des statu quo qui sont à l'œuvre dans nos vies quotidiennes, dont on n'a pas forcément conscience parce qu'on les a tellement intégrés culturellement qu'on les voit plus. Je pense notamment à tout ce qui peut être lié à doctrine libérale ou autre. On est imprégné d'un modèle et on a vécu dedans, on a grandi dedans. Le jeu peut permettre de remettre ça en cause parce qu'il peut permettre en fait quasiment un exercice d'empathie, c'est-à-dire que moi je peux incarner un personnage dans un jeu qui sera différent. Qui va vivre dans un monde alternatif, dont les règles du jeu vont être différentes, justement, de celles qui ont lieu dans le monde que je connais tous les jours. Et ça peut me permettre de changer mon point de vue, parce que ne serait-ce que pendant une capsule de, je sais pas, 20-30 minutes peut-être d'une partie, j'aurais expérimenté un autre point de vue, j'aurais expérimenté d'autres règles du jeu, d'autres façons de concevoir la société, et ça peut nous permettre ensuite de aussi questionner nous, qu'est-ce qu'on avait intégré jusqu'à maintenant. À une échelle un peu plus réduite, et pour pas parler de rechanger toute la société, mais pour parler plutôt de l'exercice d'empathie, je pense notamment au jeu Ortholand qu'on a développé à Casus Studi. Donc, il y a un jeu qui vous met dans la peau d'un ortholan bruant, ou d'un bruant ortholan plutôt, qui est un petit oiseau qui migre tous les ans de la Scandinavie vers les zones subsahariennes. et qui à un moment fait un arrêt par les Landes et se fait braconner dans les Landes. Donc normalement c'est interdit, c'est illégal, hein, on ne peut pas braconner l'ortolan. Pour autant c'est toléré par les autorités françaises pour une question de tradition, etc. Et on paye tous les ans des amendes à l'Union Européenne justement pour pouvoir continuer de le braconner. Et nous dans notre jeu en fait, bon, on voulait dénoncer cette situation un peu bizarre et vous incarnez en fait l'ortolan. Donc c'est-à-dire que vous êtes mis dans la peau de l'oiseau. Et vous allez vivre tout le trajet de l'oiseau du moment d'où il part de la Scandinavie jusqu'à ce qu'il finit dans l'assiette de la personne qui l'aura acheté au marché noir. Et en fait, on parlait tout à l'heure de jeux et de mécaniques de jeu qui sont le message. En fait, là, c'est un jeu qui est basé sur l'échec. C'est-à-dire que si vous voulez avancer dans le jeu, il faut échouer. Autrement dit, à chaque fois que vous avez un tableau de jeu, notamment au début, c'est une copie de Flappy Bird, il faut que vous évitiez des obstacles, bah, à un moment ou à un autre, vous prenez forcément un obstacle parce que vous n'avez plus d'énergie et parce que vous ne pouvez plus voler simplement. Et en fait, ce game over vous permet de continuer à la deuxième étape du jeu qui est de se faire engraisser et à la troisième étape du jeu qui est après ensuite d'être noyé dans l'armagnac parce que c'est comme ça que finissent les bruits ortolans. Mais voilà, c'est ce qu'on appelle une rhétorique de l'échec. Autrement dit, parce que l'ortolan dans la vraie vie, eh ben, c'est pas un super oiseau, c'est pas, il ne va pas se casser sa cage, il ne va pas se barrer, il ne va pas dégommer le chasseur qui essaie de l'avoir. Forcément, vous allez être mis dans sa peau et il y a une question d'empathie qui travaille justement de qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est pris au piège et c'est un jeu où on ne peut pas gagner. Donc, on n'est pas tout à fait sur le même code classique, j'allais dire, du jeu vidéo et c'est ce qui permet d'envisager des visions alternatives pour la société pour être un peu pompeux.
D'accord. Donc, effectivement, du coup, ça veut dire que le message dans un jeu ne va pas passer dans un jeu vidéo classique tel qu'on l'entend, à la fois en termes... Enfin, quand on veut transmettre un sens particulier ou un message critique, du coup on est obligé de sortir du cadre classique, puisque c'est un peu ce que tu as vécu Alain, c'est-à-dire que toi tu étais dans sur une production finalement classique, c'est-à-dire ce qu'on appelle triple A, avec un marché mondial, un éditeur international et une équipe conséquente. Et donc quand on fait ça, en fait on ne peut plus, a priori peut-être, faire passer de message...
Spec Ops The Line, c'est l'illustration de ça, c'est possible.
Et du coup, par rapport à l'écriture, enfin, la différence entre ça et l'écriture, enfin, toi, parce que j'imagine que quand tu écris, donc tu penses aussi au message que tu transmets et tu le travailles d'une certaine manière. Et c'est peut-être ça qui aussi justement t'a trompé entre guillemets dans l'exercice jeu vidéo. Mais voilà, cette différence entre les deux médias et
le souci, moi, je le savais dès le départ. Par contre, ça, c'est que tu n'es pas le vecteur du sens, quoi. Le directeur narratif n'est pas le vecteur du sens. Tu peux bâtir un univers très intéressant, tout ce que tu veux, mais tu bâtis qu'un décor, tu vois. Le porteur du sens, c'est le directeur créatif, c'est-à-dire c'est le chef des game designers, tu vois. C'est lui qui porte le sens. Donc toi, t'es à son service, tu fais ce que tu peux avec ça, tu peux l'influencer, tu peux lui essayer de te rapprocher. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur Memory Remix avec Jean-Maxime Maurice, qui était le directeur créatif. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'étais le plus proche de porter une inflexion sur le sens. Mais voilà, c'est les game designers qui ont le pouvoir et c'est normal et il le faut, quoi, tu vois, dans un jeu pour moi. Tu vois, donc ça c'est clé. Simplement une petite chose aussi que je voulais dire là, et ton exemple de l'ortolan est très intéressant, c'est que peut-être une des rares choses qu'on peut récupérer du roman et qui peut permettre de porter du sens, c'est pas le discursif, c'est le personnage. C'est-à-dire c'est le point de vue du personnage. La façon dont vous bâtissez votre personnage et dont le joueur va entrer à l'intérieur de ce personnage, et c'est très fort en jeu vidéo, c'est-à-dire que l'immersion, l'identification est beaucoup plus forte en jeu vidéo, je pense, qu'au cinéma ou dans un livre, et c'est la puissance propre pour moi au jeu vidéo, c'est cette force d'immersion que tu as par rapport au personnage que tu vas incarner. Selon la nature de ce personnage, comment tu l'as bâti, ce qu'il fait, ses actions, sa personnalité, etc., tu vas véhiculer un sens très particulier. Si tu joues l'ortolan, tu véhicules forcément un sens, c'est-à-dire que tu vas véhiculer la fragilité de l'ortolan, le fait qu'il est soumis aux chasseurs, le fait qu'il est soumis à des engraisseurs, etc. Donc tu vas faire traverser le joueur du côté de la fragilité, de la vulnérabilité, tu vas créer une empathie avec l'ortolan, et là, cette empathie va te faire tourner le cerveau. Alors que si tu joues le chasseur, tu peux être aussi ironique, aussi salaud que tu veux en tirant le maximum d'ortolan dans le jeu, ce que tu activeras, c'est le plaisir de tuer de l'ortolan, quoi, tu vois. Et tu n'auras rien à retourner, tu n'auras rien subverti. Et juste pour finir là-dessus aussi, c'est que moi j'aime bien jouer avec ces mots-là, c'est vrai qu'il y a divertir, il y a subvertir. Et à pervertir. Et que c'est vrai qu'il me semble qu'une des missions quand on investit le jeu vidéo, c'est tenter de subvertir, au moins tenter, voire de pervertir à certains moments. Voilà. C'est des choses importantes. Ouais.
Par rapport à ça, je me rappelle sur les Bibles que tu avais écrites, il y avait tout un travail de world design, de caractérisation d'univers. Et si vous regardez par rapport à la Horde, dans la Horde, on pourrait imaginer mille et une histoires. différentes dans cet univers. C'est-à-dire que ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on a des principes systémiques, on a des grands axiomes qui structurent l'ensemble de ce monde, et ensuite, il y a une multiplicité d'événements qui pourraient se dérouler au sein du monde de la Horde. Et l'erreur souvent qui est faite dans les studios de développement, quand ils travaillent, quand ils demandent, ils proposent à un romancier de venir, c'est de leur écrire une histoire. Mais en fait, c'est dommage parce que justement, ce que peut apporter de très très puissant un romancier, c'est une qualité d'écriture sur la caractérisation des principes d'un monde. Et ça, après, derrière, une fois que cette base elle est posée, on peut imaginer mille et une manières de déambuler dans cet environnement. Malheureusement, souvent, on lui demande plutôt d'expliquer quels sont les différents événements qui vont se dérouler. Et ça, c'est une contradiction logique avec la nature même de ce qu'est un jeu.
Et alors, pour revenir sur cette histoire d'interaction, tu insistais tout à l'heure sur le côté, le fait que le message passe à travers l'interaction, ou le sens passe à travers l'interaction et le gameplay et les outils qui sont fournis pour le truc. En tant que game designer, est-ce que tu trouves qu'il est facile de maîtriser justement ce qui va transparaître de ton jeu, c'est-à-dire de quand tu produis une expérience interactive, est-ce qu'il est facile de se projeter dans ce que le joueur va lui en récupérer comme information ou comme sens?
En fait, tu as différentes méthodes d'écriture, de conception de jeux vidéo. Globalement, pour résumer, tu as des concepteurs dits top-down qui vont d'abord avoir une vision globale et ensuite réfléchir au type de mécanique qu'ils veulent avoir pour que leur jeu fonctionne. Et puis, tu as des game designers plus bottom-up qui, eux, travaillent en partant d'un noyau avec une tension interne dans ce noyau. Ils voient comment le noyau se comporte. Et ensuite, c'est un peu comme de la sculpture. C'est-à-dire qu'ils voient les formes qui émergent et essayent de répondre à ça. C'est pour ça que moi, j'aime pas trop cette idée de message, parce que ça laisse aussi entendre qu'il y aurait comme ça une intention préexistante qu'on voudrait ensuite injecter, comme avec une seringue, dans un matériau préexistant. Moi, franchement, je me retrouve pas du tout là-dedans. Je préfère beaucoup plus travailler sur un noyau dont j'ai pas forcément anticipé toutes les propriétés, voir la chose émerger, me rendre compte que ça pose certaines questions, être à l'écoute de ces questions, et du coup les concrétiser jusqu'à aboutir à un truc qui parfois du coup va être complètement hors des clous des standards commerciaux. Et alors là c'est sûr que voilà, un autre exemple c'est ce qu'on a fait, c'est toujours sur l'axe manette, mais on n'a pas travaillé que l'axe manette, c'est Slam of the Arcade Age, où là vous jouez avec des manettes qui sont destructibles, et donc quand vous jouez, c'est une sorte de track and field, un jeu de course, et quand vous jouez vous êtes obligé, de par la manière dont sont construites les manettes, de les détruire. Et ça fait partie du côté très fun du jeu, c'est que du coup on joue sur une table qui a à peu près cette taille là il y a 12 manettes alors qu'on n'est que 4 joueurs, donc il y a beaucoup plus de manettes que ce qui est nécessaire, et on contrôle son avatar en appuyant sur la manette qui a la couleur de son avatar, sauf que la couleur de son avatar elle change tout le temps, et donc alors on se met à se pousser, donc il y a un côté très physique, et les manettes comme elles sont déglinguées, en fait elles commencent à partir en morceaux, mais comme il y a plus de manettes que ce qui est nécessaire, en fait en termes de ressources, les ressources manettes baissent, mais vous pouvez continuer à jouer, et du coup les joueurs se rendent compte qu'ils peuvent même aller jusqu'à arracher les fils pour désavantager les autres joueurs. Donc, vous voyez, donc ça c'est un truc complètement, vous comprenez que c'est en termes commerciaux ça veut juste rien dire, et pourtant je vous garantis que ce truc là il est hyper compulsif, à la différence d'autres jeux beaucoup plus cérébraux et intellectuels, où là on est plus sur de la prise de tête. Mais là, non, là c'est des gamins de 4 ans ou des personnes plus âgées, qui même des non-joueurs qui se transforment tout d'un coup en bêtes sauvages. Ça c'est intéressant. Mais ça veut pas dire que tu avais une idée à la base. C'est que tu t'es rendu compte en créant ton truc. Parfois c'est par erreur, tu tombes sur un truc, tu l'avais pas attendu.
D'accord, et du coup le sens que prend le jeu, tu le découvres en le faisant tester en fait.
Non mais si tu vois un truc émerger quand tu crées ton jeu, alors parfois en le faisant tester, mais aussi parfois en voulant, t'as une idée, tu demandes à ton, si tu travailles avec un programmeur de programmer ça, ou alors tu le programmes toi-même, et parfois le résultat il est pas du tout conforme à l'idée que t'avais à la base, et parfois le résultat il est plus intéressant que l'idée que t'avais initialement.
Très bien, c'est une très belle conclusion. Il reste quelques minutes, s'il y a des gens qui ont des questions. Il y en a au moins une là-bas, ou deux. Je vais faire passer les micros.
Bonjour. Je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit, monsieur Damasio, avec, avec tout le respect que j'ai pour vous. je voudrais juste... Ce serait chouette de pas nier la capacité des joueurs à se servir de leur cerveau, en fait. Je vais m'expliquer au travers de trois exemples. La première, c'est le Monopoly, qui a été cité. Vous dites donc que le fait d'avoir du plaisir à gagner avec de l'argent, d'exploser tout le monde avec des propriétés, du coup, ça va à l'encontre du message premier. Moi, j'ai appris le message premier du Monopoly aujourd'hui. Je sais pas si je suis le seul, mais c'est intéressant. Il faut pas oublier qu'une partie sur le Monopoly, ça se finit en grosse baston, quoi. C'est-à-dire qu'on écrase tout le monde, on se frite avec... ses parents, sa sœur, ses amis. En général, il y en a forcément un qui part en claquant la porte parce qu'il s'est fait complètement plumer, quoi. Je pense que ça fait partie de l'expérience de jeu. Et en plus, au travers du Monopoly qui est quand même assez réaliste. C'est-à-dire qu'on achète des rues, des gares, on fait payer des loyers, on construit des maisons. Donc ça, pour moi, ça fait quand même réfléchir déjà juste au contenu. C'est-à-dire que oui, bon, on accumule de l'argent, mais en fait, c'est quand même au détriment du bonheur de certaines personnes, quoi. Deuxième exemple, c'est le jeu sur lequel vous avez travaillé, Remember Me. Je ne vais pas spoiler très loin, mais la première fois qu'on fait un Memory Remix, quand même, on travestit la réalité dans le cerveau de quelqu'un. Je ne tire aucun plaisir de ça. Moi, quand j'ai fait cette étape-là, je me suis dit, oui, du coup, la personne, au lieu de nous buter, elle nous rejoint, mais quand même, on a modifié la réalité dans son cerveau. George Orwell, 84, tout ça, voilà, la réalité, voilà, il y en a une, quoi. Et donc, la troisième chose, c'est GTA V. Je pense que c'est un exemple de jeu dans le, qui est un triple A. Je pense que personne ne peut nier le budget de GTA V. On peut, hein, mais non. Dans lequel, quand même, il y a une critique extrêmement acerbe de la société américaine auquel on ne peut pas passer à côté. Quoi. C'est pas possible. Vraiment pas. Enfin, ou alors, il faut vraiment être teubé. Enfin, vraiment. Mais il y a quand même, donc je ne spoil pas très loin non plus, il y a quand même une scène de torture dans GTA V. Qu'on est obligé de faire. On ne peut pas juste dire « Ouais, non, non, je ne vais pas lui arracher les ongles. » Et moi, par exemple, et je ne suis pas le seul, je sais que j'ai des amis qui l'ont fait, qui se sont sentis vraiment, vraiment très mal à l'aise au moment de, de cette scène de torture. Donc peut-être que ça vient d'une expérience malheureuse dans Remember Me. Vous avez été peut-être frustré d'avoir voulu faire passer des choses.
Non, mais je ne suis pas frustré.
Non, mais je ne sais pas ce que je veux dire, mais je comprends. Parce que je travaille aussi dans certains trucs de l'industrie du jeu vidéo où il est impossible de faire des choses qui sont un peu expérimentales, un peu finaudes pour essayer d'aller au-delà des trucs énormes de blockbusters. Mais je trouve qu'il ne faut pas nier la capacité des joueurs à réfléchir deux secondes sur les conditions. Après, il y a des gens qui passent à côté des messages, mais toujours des gens qui passent à côté des messages.
Non, mais ce que tu dis sur Remember Me, et, enfin, pour moi, conforte complètement ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a un gameplay qui, effectivement, pour moi, est réussi parce qu'il envoie un sens que je souhaitais, que je rêvais de voir. C'est le Memory Remix, quoi. Tu vois, le remix de la mémoire, c'est le moment où, éthiquement, tu te poses des questions sur ce que ça veut dire, les technologies intrusives. Donc ce gameplay est réussi, il est parfaitement réussi, moi j'en suis très fier de ce gameplay, quoi, tu vois. Simplement, voilà, dans le jeu on a 50% de combat aussi, etc., et c'est peut-être nécessaire, tu vois. Et ça, je trouve ça moins intéressant, voilà. Moi, ce jeu, je le défends, je le revendique, je vais pas me flageller là-dessus, hein. Ce jeu,
c'est
je pense qu'il
je
apporte
disais.
Des choses tout à fait intéressantes. Et la couche discursive que je trouve pas suffisamment liée au gameplay, elle est quand même là. Et elle touche certaines personnes, et elle fait réfléchir certaines personnes. Je dis pas que c'est inutile, je dis pas que c'est débile, je dis pas que ça sert à rien, tu vois. Simplement, il me semble que ce que véhicule l'expérience, l'espèce de mémoire procédurale, c'est-à-dire l'expérience pratique de jouer ou de remixer ou de se battre ou de tuer, etc. dans les FPS, c'est l'expérience pratique du gameplay. Elle véhicule un sens beaucoup plus puissant et beaucoup plus, rémanent que simplement la couche discursive consciente qu'on va pouvoir y mettre, tu vois. Sur GTA, moi j'ai toujours été critique de GTA parce que je trouve que c'est du foutage de gueule, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est très critique. Mais ils surfent sur cette critique-là, et la vérité, c'est qu'on est bien content de baiser des putes dans ce jeu, tu vois. Non, mais soyons sérieux, quoi, tu vois. On est bien content de faire des trucs qui sont dégueulasses, d'écraser des gens, etc. Je parle des gens qui jouent à ça, moi j'y joue pas, et je déteste ce jeu, honnêtement, tu vois. Et j'entends très souvent ce discours sur GTA en disant, ouais, mais GTA, putain, c'est génial, le second degré, il est fabuleux et tout ça. Mais il y a un premier degré viscéral, et que tu éprouves quand tu joues, qui est de faire des trucs qui sont juste niveau primaire, crade, sexiste. Et qui sont la négation de l'être humain,
mais
tu vois.
Mais tout le monde joue
voilà.
Pas,
et après, on peut intellectualiser si tu veux, mais si tu veux, ton expérience physique, elle est là, et ton plaisir physique, il est là, tu vois. Et tu peux toujours après dire ouais, mais c'est vachement second degré, tu vois. Bon, moi, j'ai jamais adhéré à ce partenariat.
Mais plaisir veut pas dire, ça veut pas dire adhérer. Il y a
oui,
quand même beaucoup
ouais,
de jeux vidéo
mais
qui basent leur expérience
adhère, quoi,
pas sur un.
Moi, je sais pas.
Voilà, pour moi, être adhérer, c'est pas voilà. Je suis content de voir la liste de Schindler, pour autant j'adhère pas du tout à ce que je vois toujours dedans. Pas sauver des juifs, hein, mais voilà. ce contre quoi il se bat, quoi. C'est ça, c'est une avancée du jeu vidéo pour moi, c'est de ne pas tout baser sur le système de récompense qui effectivement inclut qu'il faut faire quelque chose pour gagner, quoi. Et les news games participent à ça.
Et donc la conclusion, c'est que c'est compliqué comme outil pour transmettre des messages, puisqu'effectivement on ne transmet pas toujours ce qu'on veut. Bien, merci à tous, et puis à bientôt pour d'autres conférences.